Interface, le podcast de la rencontre entre recherche académique, société et territoire. Épisode 3, vers où va-t-on ? Une scénarisation des possibles. Bonjour, je suis Guillaume Lacroix, animateur de la chaire Aménager le Grand Paris à l'École d'urbanisme de Paris. Une chaire, historiquement, c'est un espace de partage du savoir d'un professeur. Et justement, la mission principale de notre chaire, c'est d'animer des échanges entre des universitaires, des étudiants et un réseau d'entreprises impliquées dans l'aménagement de la métropole parisienne. Dans cette deuxième série proposée par la chaire, nous allons parler de la production de logements en Île-de-France et plus particulièrement en Grande Couronne, c'est-à-dire dans les quatre départements les plus éloignés de Paris. Saviez-vous déjà que, sur une région de 12 millions d'habitants, plus de la moitié réside dans cette Grande Couronne ? Justement, l'accueil de nouveaux habitants dans ces territoires est au cœur de politiques publiques qui peuvent être en tension. L'objectif actuel de zéro artificialisation nette, ou ZAN, vise en effet à stopper la bétonisation des terres agricoles et des espaces naturels. On peut se demander, comment construire pour accueillir autant d'habitants, tout en limitant l'impact sur l'environnement ? D'autres questions se posent, comment densifier l'habitat, tout en préservant la qualité de vie et l'accès aux services pour les petits villages de la région ? C'est tout l'objet de notre série « La densification résidentielle en Grande Couronne, mission impossible ». Dans les deux épisodes précédents de cette série, les enseignants-chercheurs de l'École d'urbanisme de Paris nous ont exposé un panorama de la production de logements dans la Grande Couronne francilienne en la rapportant aux différents modes de vie dans les zones périurbaines. Ils ont aussi décortiqué pour nous la controverse actuelle autour de l'introduction de l'objectif ZAN, dont les modalités pratiques sont encore largement incertaines et en débat. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode, nous allons discuter avec Aurélie Landon, chercheuse à la chaire. Elle nous présente l'expérimentation qu'elle mène autour de différents scénarios de prospective pour décrire les trajectoires possibles de la transformation résidentielle de cette Grande Couronne. Elle nous invite aussi dans les coulisses de sa recherche en nous expliquant comment elle travaille avec des étudiants et des groupes de professionnels du secteur de l'urbanisme et du logement. Bonjour Aurélie Landon.
Bonjour.
Nous avions déjà vu que pour ces professionnels, la densification en logement collectif de la Grande Couronne semble poser des difficultés sur un plan économique avant même qu'on définisse l'impératif de ne plus artificialiser les sols. Alors, en quoi cet objectif de zéro artificialisation nette, désormais posé par la loi, comme on l'a vu dans l'épisode 2, comment cet objectif risque-t-il d'engendrer des coûts supplémentaires pour la construction de ces logements ?
Oui, alors avec l'objectif ZAN, comme il est configuré actuellement, il serait quasiment plus possible de construire que des immeubles collectifs. Et dans le cas de la Grande Couronne francilienne qui nous intéresse ici, on a déjà vu dans les épisodes précédents qu'il y avait d'abord une demande faible en logement collectif et une opposition importante à cette forme de l'immeuble dans le périurbain. Et la deuxième chose, c'est que la construction de logements collectifs coûte plus cher que la production de logements individuels pour les opérateurs dans le périurbain. Et donc avec le ZAN, les promoteurs et aménageurs craignent que les tensions autour du coût s'accentuent. En fait, pour construire du logement collectif dans le périurbain, il y aurait alors trois possibilités. Et pour les acteurs de la construction, ces trois possibilités créent des surcoûts qu'ils pensent ne pas pouvoir absorber. Donc dans le jargon professionnel, les acteurs disent qu'ils ne peuvent pas équilibrer leurs opérations. Ça veut dire qu'ils ont plus de coûts que de rentrées d'argent.
D'accord. Et quelles sont ces trois possibilités alors ?
Mais la première, ça serait de construire des immeubles sur des parcelles délaissées en centre-bourg pour ne pas artificialiser. Et là, les surcoûts, ils correspondent à ce que j'avais expliqué dans l'épisode 2. C'est-à-dire que le logement collectif coûte plus cher à produire que l'individuel parce qu'il y a des effets de seuil, des taxes d'aménagement supérieures et puis des risques financiers plus importants. Et là, ça se passe du coup dans des secteurs, donc le périurbain, où le prix de l'immobilier est trop faible pour couvrir ces surcoûts ou ces risques. Ensuite, il y a une deuxième solution qui serait de réhabiliter des friches, notamment des friches industrielles. Et là encore, il y a une étude qui vient d'être menée par Marie Laurenté, qui est économiste de l'aménagement. Et donc, elle a fait cette étude avec les étudiants de l'École d'urbanisme de Paris. Et elle montre que les frais de dépollution engendrés par ces réhabilitations de friches sont trop importants pour pouvoir équilibrer les opérations de logement. Et puis la dernière solution, ça serait de construire en artificialisant des sols, mais par ailleurs en finançant des opérations de renaturation pour compenser. Mais là encore une fois, ces opérations de logement étant déjà difficiles à l'heure actuelle à équilibrer, se pose la question de comment on absorbe ces nouveaux coûts de la compensation par la renaturation.
D'accord. Alors, on a vu dans le deuxième épisode les différents points qui font débat hein, avec l'introduction de cet objectif ZAN. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous travaillez en tant que chercheuse en sciences sociales sur ces questions ?
Ben, ce qu'il faut d'abord faire, c'est tenter de caractériser un peu à quel type de controverse on a affaire. Et donc ici, on a affaire à une controverse qui mêle des enjeux environnementaux et des enjeux économiques. Les enjeux économiques, on en a déjà un peu parlé. Et sur les enjeux environnementaux, l'objectif ZAN, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il a été élaboré dans la loi climat pour répondre à ce qu'on appelle dans les travaux sur l'environnement les « slow disasters ». Donc, ça veut dire que l'artificialisation des sols, elle ne va pas créer une catastrophe imminente et on ne peut pas lire facilement la relation de cause à effet de ce que provoque l'artificialisation comme dégâts sur la biodiversité. Au contraire, ça cause des dégradations à bas bruit et dont les effets se perçoivent sur le temps long. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que l'objectif ZAN, il a été mis à l'agenda politique dans une logique d'anticipation. Peut-être juste pour définir ce que c'est l'agenda politique, c'est un terme qu'on utilise en sciences politiques notamment, pour désigner un problème dont se saisissent les autorités et y répondent. Donc il y a plusieurs possibilités pour qu'un problème soit mis à l'agenda. Ça peut être pour répondre à des mobilisations de mouvements sociaux ou pour réagir sur un sujet d'actualité très médiatisé.
Et donc, vous nous dites qu'ici, on a affaire à une mise à l'agenda par anticipation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Eh bien, ça veut dire que cette mise à l'agenda, elle ne répond pas à une demande sociale forte ou à une controverse qui serait déjà bien installée dans le débat public. Au contraire, c'est des enjeux qui ont été identifiés par des experts pour faire face à des risques qui sont encore peu identifiés et ciblés par le grand public. C'est un peu la même logique qu'on retrouve souvent sur les enjeux de prévention des risques dans les politiques de santé, comme par exemple les politiques de réduction du tabagisme. Et donc le ZAN, contrairement à d'autres politiques publiques, il a ce site particulier qui émane des pouvoirs publics, qui ont mis à l'agenda cette question de l'artificialisation et qui proposent d'y répondre. Et du coup, ça veut dire qu'il y a un travail à faire plus important par le gouvernement pour sensibiliser, susciter l'adhésion, etc. Et que ce travail est plus important que lorsqu'on répond à une demande forte qui est déjà existante.
D'accord. Donc, ce que vous nous décrivez, ce sont des éléments de compréhension généraux, méthodologiques, sur les débats autour du ZAN. Mais comment vous travaillez plus précisément cette question sur les enjeux de logement ?
Pour aller plus loin dans l'étude de la controverse, il faut essayer de caractériser un peu plus finement les acteurs et leurs arguments dans la controverse. Qui sont les protagonistes, quels sont leurs arguments, quelles sont leurs contraintes et leurs ressources. Et là, l'élément auquel on s'intéresse dans le cadre de la controverse du ZAN, c'est la production du logement urbain, du logement en grande couronne dans des territoires périurbains. Donc. Et là-dessus, moi, je me suis beaucoup appuyée sur un ouvrage de Julie Pollard qui s'appelle « L'État, le promoteur et le maire », qui explique que la politique du logement, elle fonctionne sur ce qu'on appelle un modèle du faire-faire. Donc, en gros, l'État fixe des objectifs de logement à produire et il crée des dispositifs incitatifs. Ensuite, la collectivité locale, elle va s'appuyer sur les acteurs privés pour mettre en œuvre cette politique. Et donc Julie Pollard, ce qu'elle montre, c'est que les pouvoirs locaux et les promoteurs, ils coopèrent en permanence en échangeant des ressources, des compétences, etc. pour répondre à ces objectifs de production de logements fixés par le national. Et donc là, j'en reviens au ZAN. Ce que ça nous permet de comprendre, c'est que dans la controverse autour du ZAN, chez les acteurs du logement, les protagonistes nous disent justement perdre des ressources qui leur permettaient de mettre en œuvre ces politiques de logement. Donc on a d'un côté les maires qui disent qu'ils perdent la maîtrise foncière du sol de leur commune et leur possibilité d'attribuer des permis de construire et ainsi d'influer sur la manière dont on met en œuvre cette politique. Et puis de l'autre côté, on a les promoteurs et aménageurs qui indiquent qu'ils n'ont plus de capacité financière pour assurer la production de logements demandés.
D'accord. Et donc, en fait, depuis tout à l'heure, on parle de controverse, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer plus précisément ce qu'est une controverse quand on travaille dessus dans la recherche en sciences sociales ?
Oui, alors pour analyser ces débats, je me suis appuyée sur une approche qui avait été popularisée par le sociologue Bruno Latour, donc qui est récemment disparu, sur l'analyse des controverses et qu'il avait développée avec Madeleine Acriche et Michel Calon. Et pour comprendre déjà ce qu'est une controverse, je vous propose de reprendre quelques éléments de définition qui ont été proposés par Nicolas Bévenu et Brice Laurent. Donc, il y a deux grands éléments dans la définition de la controverse. D'abord, une controverse, c'est une situation dans laquelle il y a un désaccord entre plusieurs parties et chacune de ces parties va mobiliser des savoirs spécialisés sans réussir à imposer leur certitude. Donc, dans les discours, dans la controverse autour du ZAN, on trouve des arguments techniques. Donc, par exemple, on ne sait pas mesurer précisément l'artificialisation. On trouve aussi des arguments sociaux, il y a un risque d'aggraver la crise du logement déjà en cours, ou des arguments économiques. On met en difficulté la filière du bâtiment déjà fragilisée par la crise du Covid. Et ils sont en débat sans que l'on puisse facilement trancher sur quel argument a la priorité sur les autres.
D'accord, donc ça c'est le premier élément de définition de la controverse. Quel est le second ?
Alors, le second, c'est que dans une controverse, il y a un mélange varié d'enjeux, de faits, de valeurs qui sont à la fois sociaux et techniques. Et donc, l'objectif, c'est d'aller comprendre comment ils ont été construits. Donc, si on prend l'exemple d'un argument qui revient souvent justement chez les promoteurs et aménageurs, qui est « ce n'est pas possible d'équilibrer une opération de logement collectif dans le périurbain ». En fait, pour que cet argument se tienne, ça suppose plusieurs choses. Ça veut dire que déjà, on s'est mis d'accord en amont sur un problème commun, qu'il y a un besoin de logement d'une part et des enjeux environnementaux d'autre part à prendre en compte. Et donc, les acteurs du logement se sont mis d'accord sur une solution. C'est que les nouveaux logements produits dans le périurbain doivent être des logements collectifs. Et pour ça, on s'appuie sur un accord implicite qui préexistait, c'est que ce sont les acteurs privés qui répondent à ce besoin collectif en échange de marges suffisantes sur leurs opérations. Or, cette marge, elle se situe habituellement entre 7 et 10%. Et dans le cas du ZAN, on a vu que les coûts de production risquent d'être plus importants et donc que cette marge risque d'être réduite. Donc, ça remet en cause un accord tacite dans le secteur de la construction et c'est ce qui participe à créer une controverse.
Ok, donc si on résume, on voit que derrière un argument en apparence simple et solide, il y a un enchevêtrement d'accords tacites, de valeurs qui sont progressivement pris pour acquis. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Et ce qu'il y a de compliqué quand on étudie cet enchevêtrement, justement, c'est qu'avec le temps, ils deviennent comme des formes d'évidence que l'on n'interroge plus. Pour Bruno Latour, c'était tout l'intérêt d'étudier les controverses, donc le moment où ce qui était considéré comme acquis est re-questionné. Parce que ça permet, je reprends ces termes parce qu'ils sont assez parlants, de faire éclater la boîte noire, justement, de ce qui était considéré comme acquis. Et donc, il faut aller comprendre comment ces enchevêtrements ont été construits, comment les personnes se sont mises d'accord, qu'est-ce qui est remis en cause dans la controverse, etc.
Ok, donc plus concrètement, pour analyser ces différents aspects entremêlés de la controverse sur le ZAN, vous êtes en train de mener une expérimentation méthodologique avec des étudiants de l'École d'urbanisme de Paris et des partenaires professionnels de la chaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, alors j'ai proposé une expérimentation en mobilisant un outil de la prospective qui s'appelle le scénario extrême. En gros, le scénario extrême, ça consiste à construire des scénarios en poussant des pistes de solutions qui sont déjà proposées par les acteurs dans la controverse, mais on va pousser ces solutions à l'extrême, donc de manière caricaturale. Donc, on élabore dans un premier temps, sans se préoccuper de leur crédibilité, des scénarios qui peuvent être soit utopiques, soit dystopiques. Et ça permet de travailler sur des questions encore ouvertes, qui sont la caractéristique des controverses. Et l'objectif, c'est ensuite de les soumettre aux acteurs de la controverse, donc ici aux acteurs de la production de logements, pour les faire réagir et échanger. Et avec ces échanges, ce qu'on cherche justement, c'est à faire éclater cette fameuse boîte noire dont je parlais avant. De comprendre qu'est-ce que le ZAN vient remettre en cause, par exemple. Et alors, évidemment, il y a de nombreux sujets qu'on pourrait ouvrir au débat avec ces méthodes. Ici, on a choisi de se concentrer sur les questions économiques parce qu'elles ont été soulevées par les partenaires de la chaire avec qui on travaille.
Et comment vous avez construit ces scénarios concrètement ?
Alors, la construction de ces scénarios, elle s'est faite dans le cadre d'un enseignement construit avec Claire Arago, donc, qui intervenait au premier épisode, qu'on a mené en septembre 2022 à l'École d'urbanisme de Paris. En fait, on s'est appuyé sur la revue de presse que j'avais faite sur la controverse et on a demandé aux étudiants de travailler 4 scénarios différents. Et donc, il y en a 2 qui concernent la recherche de nouvelles pistes de financement et 2 autres qui portent sur la reconfiguration des modèles économiques du logement. Et donc, dans leur scénario, on leur a demandé de montrer quels acteurs seraient impliqués, quels outils sont mobilisés, quel futur urbain cela dessine, et puis d'imaginer également les risques de ces différents scénarios. Et pour chaque scénario, on leur a demandé de produire une petite vidéo qui met en scène ces histoires qu'on va utiliser dans la suite de notre enquête pour faire réagir justement ces professionnels du logement.
Alors, on va justement entendre maintenant un extrait de l'un de ces scénarios issu de la vidéo réalisée par les étudiants de l'École d'urbanisme de Paris.
Métropole du Grand Paris, 2060. Hugo, un urbaniste retraité, se dépêche pour rejoindre Manon, son amie, l'ancienne maire de Coubron, dans le square, dernier espace de nature de leur ville. Il y a longtemps, ils ont travaillé ensemble. Il descend dans sa rue jonchée de grands immeubles où la maison individuelle n'existe plus. En regardant les immeubles, il se sent chanceux de vivre au 10e étage car il bénéficie de la lumière, du jour et capte de l'air. Il se dit que rejoindre son ami va être difficile car il se sent étouffé par la chaleur du béton et la foule. Une fois arrivé au square, il est attristé par l'évolution qu'a pris sa ville et décide d'en parler à son ami. Mais alors, pourquoi la ville est-elle comme ça ?
Non, mais c'est dingue, tu te rends compte ? C'est le dernier espace de nature ici.
J'ai tout de suite su en 2018 que ça allait arriver quand le zéro artificialisation net a été mis en place.
Oui, c'est vrai. Le ZAN qui devait permettre de lutter contre l'étalement urbain, la réduction des surfaces agricoles et de la biodiversité.
Ah, sacrée ironie. Tu te souviens, en 2034, quand Coubron a été complètement artificialisé et que la compensation s'est faite à 100 km de là ? En plus, la biodiversité est beaucoup plus pauvre aujourd'hui, vu que le marché de la compensation incitait à être plus rentable et donc à protéger toujours les mêmes espèces.
Ce dont Manon et Hugo parlent, c'est de la séquence ERC qui vise à éviter et réduire les nouvelles constructions et dans le cas échéant, de compenser la perte d'un espace naturel. La Caisse des dépôts et consignations biodiversité était au départ le seul acteur en charge de la gestion des espaces compensables. Puis, de nouveaux acteurs, tels que les bureaux d'études et les associations, sont apparus et un marché de la compensation s'est formé. Les espaces compensés, situés loin des espaces urbains, ont créé des poches de ruralité qui contrastent avec les espaces denses artificialisés. Cette nouvelle taxe s'inspirait de la taxe carbone sur le principe du pollueur-payeur et devait limiter davantage l'artificialisation et financer la compensation. L'objectif du ZAN est de densifier.
Désormais, la compensation est trop coûteuse et ça favorise les gros promoteurs, les grosses entreprises qui ont les moyens de compenser. Finalement, la ville est devenue inégalitaire.
Je pense parfois au petit promoteur de la commune qui a rapidement fait faillite faute de moyens financiers pour compenser.
Et tu ne sais pas, le plus dur a été de savoir comment attribuer cette taxe. Les maires ont milité pour qu'elle revienne aux communes ou aux EPCI. Finalement, l'État a pris la main sur cette compétence car nous n'étions pas outillés pour piloter la fiscalité de l'urbanisme.
Alors, l'extrait que l'on vient d'entendre, c'est l'un des scénarios qui portait sur les pistes de financement de production de logements. Est-ce que vous pourriez nous les présenter ?
Oui, alors, Ce premier scénario, d'abord, je vais rappeler qu'il a été élaboré par Bianca Bono, Rémi Campora et Anna Rittimann. Et il s'appuie sur une proposition de France Stratégie. Donc France Stratégie, c'est une institution gouvernementale de prospective qui avait proposé d'imiter le principe pollueur-payeur qui avait donné lieu à la création de la taxe carbone. Donc la taxe carbone, pour le dire un peu rapidement, c'est une taxe que paient les grands émetteurs de carbone afin de rendre plus chère l'utilisation des énergies fossiles et d'espérer la faire réduire ainsi.
Et qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme prévu avec ça ?
Eh bien, ça a eu des effets pervers autour de l'ouverture d'un marché carbone. C'est-à-dire que pour limiter les émissions carbone, l'État fixe des quotas qui plafonnent la quantité totale de carbone que les entreprises peuvent émettre. Du coup, pour s'y conformer, les entreprises, elles doivent soit réduire leurs émissions, et dans ce cas, elles ont le droit de revendre leurs droits à émettre à d'autres organisations. Et dans le deuxième cas de figure, les entreprises qui ne réduisent pas leurs émissions, elles doivent acheter aux premières entreprises des quotas excédentaires pour avoir le droit d'émettre un peu plus de carbone. Mais du coup, selon les associations de défense de l'environnement, ce système, il n'a pas réduit les émissions de carbone, il aurait même plutôt contribué à les augmenter. Et puis surtout, il aurait également créé une sorte de droit à polluer, puisqu'on peut maintenant acheter la capacité à émettre du carbone. Et ça a développé aussi toute une spéculation autour du prix de revente de ces fameux quotas. Et donc l'objectif du scénario, c'était d'imaginer les conséquences possibles d'une réplication de cet instrument, mais cette fois-ci sur l'artificialisation des sols.
Ok, et il y avait aussi deux autres scénarios sur l'évolution du modèle économique de la production de logements à l'heure du ZAN. Est-ce que vous pourriez nous en présenter un autre ?
Oui, il y a un autre scénario qui a été travaillé par Alina Croatoru, Léo Huard et Mathia Yayaoui. Et il consiste à changer un peu le fonctionnement des promoteurs. En gros, habituellement, les promoteurs privés, ils construisent puis revendent leur logement au plus vite. Et ici, l'idée, ce serait que les promoteurs conservent les logements une fois construits et qu'ils deviennent gestionnaires, un peu comme les bailleurs sociaux. Donc, ça veut dire qu'au lieu de rentabiliser à court terme leurs opérations grâce à la vente, ils pourraient rentabiliser leur logement par les revenus locatifs et par des services proposés aux habitants.
Merci Aurélie. Nous avons vu aujourd'hui que la controverse autour du ZAN crée de nombreux débats chez les acteurs du logement qui ne sont pas forcément d'accord sur les solutions. Le débat reste ouvert sur la façon de répondre aux besoins du logement des Franciliens tout en limitant l'artificialisation des sols. Nous avons vu également dans le précédent épisode que le cadre réglementaire du ZAN, lui-même encore fluctuant, va sûrement évoluer et que ça participe à alimenter ces débats. Est-ce qu'il faut conserver les mesures contraignantes, comme c'est le cas aujourd'hui, ou comme le réclament beaucoup d'élus, il faudrait adopter une approche plus incitative ? Ce débat reste ouvert fin 2022. Enfin, nous sommes rentrés dans les cuisines de la recherche, comme on le propose dans ce podcast Interface. Comment travaille-t-on sur un sujet en pleine actualité ? Comment décrypte-t-on les arguments avancés par les différents protagonistes d'une controverse ? Aurélie, vous nous avez présenté ainsi une expérimentation méthodologique que vous êtes en train de mettre en place autour du scénario extrême, qui est un outil pour travailler ces incertitudes. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne chance pour cette expérimentation. Cet épisode a été préparé et pensé par Aurélie Landon et Guillaume Lacroix. Il a été organisé par Rima Hachi et François Follier du programme eCity. Il a été produit avec l'appui technique du Centre d'ingénierie et de développement pédagogique de l'Université Paris-Est-Créteil. Interface, le podcast de la rencontre entre recherche académique, société et territoire.
Une coproduction du programme de recherche eCity et de la chaire Aménager le Grand Paris, qui donne la parole aux chercheurs, étudiants, experts et militants.